France Inter.
Historien de la mode, commissaire d'exposition, auteur, artiste, directeur artistique de la maison Weston et directeur de la fondation Azzedine Alaïa, Olivier Saillard fut aussi le plus jeune conservateur de France lorsqu'il prit la direction du musée de la mode de Marseille à 27 ans. L'ancien directeur du palais Galliera œuvra aussi comme chargé de programmation aux arts décoratifs à Paris et l'on peut dire sans se tromper qu'il œuvra assez tôt dans la presse papier, créant l'ultra confidentiel magazine Le Grand Couturier à 12 ans. Auteur d'une trentaine de performances, dont plusieurs avec l'actrice Tilda Swinton, d'environ 250 expositions et de dizaines d'ouvrages de réflexion sur la mode et son histoire, il a notamment publié « Histoire idéale de la mode contemporaine » aux éditions Textuelles et coordonné l'ouvrage collectif « Le bouquin de la mode » aux éditions Robert Laffont. Son ouvrage « Madame Grey Couture Paris » est paru aux éditions Rizzoli l'année dernière. Il avait consacré une exposition au musée Bourdelle en 2011 à cette grande figure de la mode. Esthète fuyant la tyrannie de l'immédiateté, il fut le commissaire avec Gaëlle Mamine de l'exposition Les Fleurs d'Yves Saint-Laurent, dont le catalogue est paru chez Flammarion. Pour sa série de performances intitulée Moda Povera, il s'est inspiré de l'Arte Povera, mouvement né dans les années 60 en Italie, en réaction à la croissance dévorante du marché de l'art. La cinquième édition aura lieu au Grand Palais du 10 au 13 juillet prochain, sous le titre Les Vêtements de René, hommage à sa mère disparue, ancienne conductrice de taxi et couturière à 16 heures, qui plaçait la culture au-dessus de toute richesse matérielle. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Olivier Saillard.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
De venir ici. Elle est donc très récente.
Ah bah oui.
Non, ça c'est mon côté un peu trop séducteur.
Oh.
De vous rencontrer.
C'est vrai ?
Oui.
Ah bah ça me fait très plaisir. Bah, curieux et donc enthousiasmé, évidemment.
Bah, bien sûr.
Alors, est-ce que je peux vous demander comment vous êtes habillée ?
J'ai une chemise bleue, légère.
Avec des points blancs ?
Avec des points blancs. Un pantalon bleu qui est toujours le même, puisque je fais toujours les mêmes pantalons, en bleu de travail, et puis des bottes Weston.
Donc, vous les faites, les pantalons ?
Je les fais faire, mais c'est pas d'une grande haute couture, c'est quelque chose de basique, comme les pantalons de travail. Voilà.
Et il est bleu, je ne le vois pas d'ici car vous êtes coupé par la table du studio. Ah oui, oui, il est bleu bien plus foncé que la chemise.
Oui, il est bleu et c'est des bleus, plus on les lave, plus on les repasse, plus ils deviennent des bleus différents. Donc selon, parce que j'en ai plusieurs, je m'habille de la même manière, mais j'en ai plusieurs. Donc je choisis des fois un bleu passé, un bleu plus neuf, un bleu... Là j'ai un pantalon neuf qui m'attend, donc j'irai le chercher pour l'inaugurer bientôt.
Comme des histoires d'amour.
Un peu.
Qu'est-ce que cela dit de vous, vous qui avez tant réfléchi à ce que les vêtements disaient de nous ?
C'est venu, je pense, un peu avec la cinquantaine, le désir d'avoir de moins en moins, de posséder de moins en moins. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie et je m'étais aperçu que je savais au nombre près les meubles, j'en ai très peu, des objets pas beaucoup, beaucoup de livres. Et j'étais heureux de savoir que j'avais une liste qui était toujours la même. Et les vêtements, c'était ce qui était un petit peu trop densifié dans les armoires. Donc au bout d'un moment, j'ai tout enlevé pour avoir 5 pantalons qui sont les mêmes, des chemises en jean ou des chemises bleues, des cravates vintage. Et oui, le matin, j'y pense plus. C'est un repos.
Et vous ne vous lassez jamais de ce que vous portez ?
Je me lasse de moi. Donc c'est autre chose, mais c'est que je sois en rose ou en bleu, je crois que ce serait la même manière, et à choisir, je crois que le bleu me va mieux.
Donc c'est mieux de se lasser de soi dans une belle couleur qui nous sied.
Je crois que on sait un peu près comment on est potable.
C'est vrai, moi je me lasse de moi en vert émeraude en général.
Et puis je pense que je me lasse de tout à un moment donné, c'est très étrange, c'est une expérience, vous voyez par exemple les pantalons. Ça paraît très frivole, hein, comme une discussion, ou frivoliste,
vous
comme on
disait pas,
au 18e.
Mais... On parlera de mort aussi.
Oui, j'espère bien. J'ai les mêmes pantalons, et y compris dans cette identique copie qu'ils sont les uns des autres, il y en a que je préfère.
Ah oui ?
Donc, ça s'insinue ailleurs, la différence. J'ai des pantalons bleus, je trouve, qui tombent mieux, je ne sais pas pourquoi, que le même autre pantalon bleu.
Très étrange.
C'est de la maniaquerie ou du fétichisme, je crois.
Mais ça veut dire que personne n'est remplaçable, même les pantalons.
Non, je dirais que tout a une différence et qu'elle peut faire standard. C'est-à-dire que si j'avais les mêmes pantalons, larges, petits, rouges, jaunes ou bleus, bien sûr que ce serait plus criant. Mais y compris dans cet étau très restreint de choix, il y a des différences et que c'est un exercice, peut-être.
Vous avez... pour votre service militaire, était objecteur de conscience au musée de la mode et du textile. Étiez-vous prédestiné ?
Je pense un peu, j'étais prédestiné à ce monde-là parce que je passais ma vie, c'était très singulier de passer sa vie d'enfant dans un grenier où il y avait plein de vêtements, je l'ai souvent dit, allongés. Il y faisait aussi chaud qu'actuellement dans le studio.
Ah oui, il fait très très chaud.
Et j'étais au milieu de tous ces vêtements, empilés de plusieurs générations, sans savoir pourquoi j'étais là à écrire, à fumer des cigarettes, à rêver. Et quand je me suis retrouvé objecteur de conscience dans les réserves du musée des Arts Déco, où il y avait la partie mode, et parfois, je veux l'avouer, je dormais en début d'après-midi, comme j'étais jeune, que je sortais beaucoup, ça m'arrivait d'aller faire une micro-sieste, 10 minutes, 20 minutes, au milieu de ces vêtements. Et un jour, je me suis dit, mais c'est chez moi. Je me suis revu dans le grenier, il y avait tous ces vêtements. Donc, je pense que j'étais un peu prédestiné, pas à la mode, mais à être entouré de vêtements morts. Ça, c'est vrai.
Parce qu'il y a des vêtements vivants ?
Il y en a assez peu de vivants, finalement. On dit beaucoup de choses sur les vêtements. On espère que tous les vêtements sont faits pour être portés, mais mathématiquement, ils sont faits pour nous attendre. Ils sont plus souvent sur le dos d'une chaise, sur un cintre, que sur nos épaules. Et si on additionnait le temps d'attente qu'ils occupent dans nos vestiaires ou dans nos endroits domestiques, on s'apercevrait qu'ils sont assez peu souvent sur nous. Et c'est cet opposé qui m'a intéressé. J'aime bien, en effet, voir les vêtements portés par des vraies personnes, par des corps en mouvement, mais je suis toujours très, très séduit et troublé par l'état de portrait qu'ils ont à vide.
Vos deux parents étaient chauffeurs de taxi. Est-ce que cela modifie votre rapport au taxi ?
Oui, ça, mais j'ai toujours une tendresse de prendre un taxi. Alors encore plus quand c'est une chauffeur de taxi, ça m'attendrit beaucoup. J'ai beaucoup d'indulgence. J'ai mon application G7. J'ai une forme de reconnaissance pour ce métier. J'aime bien ceux qui n'ont pas de GPS. Oui, j'ai une indulgence. Et puis c'est toujours un luxe pour moi néanmoins de prendre un taxi. Je le fais avec cette idée d'être conduit, de regarder la ville. Ça me plaît beaucoup.
En parlant de ville, vous avez grandi dans un endroit du Jura, dans une région, je vous cite, de neige et de bois, qu'on appelle aussi la Petite Sibérie, et qui rappelle les peintures de Courbet. Est-ce que ce paysage va de pair avec une mélancolie enfantine ?
Ça pourrait, parce que c'est des villages très reculés, même Pontarlier, c'est une petite ville reculée. Le paysage environnant l'hiver était très blanc, très sourd, presque mystérieux. Celui de Ornans avec la Loue qui le traverse, comme dans les peintures de Courbet, c'est une forme de propulsion dans le passé. Après, non, je crois que la mélancolie peut être tellement partout. Elle pourrait être dans ce studio, encore une fois, avec ce rouge tendu. Je suis pas sûr que ça ait agi comme ça, mais c'était une forme de dépeuplement, quand même. On était loin, je sais pas. Il y avait une mise à distance. Bien sûr, j'étais entouré de beaucoup de camarades, de beaucoup d'étudiants, d'élèves. Mais je sais pas, j'avais l'impression que j'étais seul au sein d'une société. D'abord au sein de ma famille, où on était 6, plus mes parents. Puis à l'école. Moi, je me sentais grave et seul un peu partout.
Et aujourd'hui ?
Pareil. Un peu pareil, mais je sais que je suis bien seul. Je le sais que je suis heureux comme ça. À un moment donné, vous ne savez pas. Aujourd'hui, je sais bien que je suis beaucoup plus heureux. J'aime les deux.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Olivier Saillard, vous allez présenter bientôt la performance Moda Povera 5, les vêtements de René au Grand Palais du 10 au 13 juillet prochain. Ça vient d'une série de performances intitulée Moda Povera. Et les vêtements de René, je crois que c'est un projet qui est né en 2023, qui présentait une trentaine de pièces de la garde-robe de votre mère, décédée 2 ans plus tôt.
C'est ça, c'est vraiment une performance autour de la garde-robe de ma mère qui est disparue au moment du Covid, mais pas du Covid, dans mes bras. C'était singulier et très perturbant autant que, aujourd'hui je peux le dire, rassurant presque. Elle avait un âge certain pour aller dans cette voie-là. Et quand on a vidé la maison, qui était la chose, je trouvais, la plus difficile à faire, on le dit toujours, mais on ne le réalise pas immédiatement. Je ne savais pas quoi faire de ses vêtements. Ma mère était chauffeur de taxi, c'était une femme simple, elle ne dépensait pas des fortunes, elle aimait bien s'habiller, mais comme on le fait en région, là où les centres-villes ne sont plus occupés par des magasins, on va s'habiller dans des grandes surfaces. Et à un moment donné où j'étais prêt à tout donner ou léguer à d'autres associations, il m'est revenu quand même que j'avais, en qualité de conservateur, fait des inventaires toute ma vie, que j'avais dressé les donations de grandes clientes et que je pouvais pas donner celle de ma mère. Ça faisait quelque chose d'assez hirsute dans mon parcours. Donc j'ai tout mis dans des cartons, j'ai descendu ça dans le sud. Et puis un jour, c'est revenu à moi. Je me dis, tiens, à travers ce travail Moda Povera, qui est une entreprise, je dirais, de transformation de vêtements du quotidien par des savoirs, par l'histoire de la mode que je pense connaître un peu, je fais intervenir d'anciennes couturières de quartier ou d'ateliers qui se sont exercés toute leur vie et qui enseignent leur méthode à des gens plus jeunes. Et là, tout à coup, c'est devenu... J'étais prêt, c'était à peu près 2 ans après, en effet, la mort de ma mère. Donc, on a commencé à regarder les vêtements, à les transformer. On n'a pas vu ce qu'on faisait immédiatement. J'ai pas vu. Alors, après avoir versé une larme au premier vêtement, c'est allé. Et c'est devenu comme si c'était une histoire de la mode qu'on racontait à travers les vêtements humbles de ma mère. Et donc, ça a aussi dédramatisé. Il n'y avait pas... J'étais attentif à ce qu'on ne dresse pas le pathos d'une disparition. Tout le monde perd ses parents. Donc, une dignité aussi à pouvoir le dire comme ça, pas par-dessus la jambe. Mais je voulais pas qu'il y ait du pathos. Mais j'étais très amoureux de cette femme, ma mère, chauffeur de taxi, et de lui rendre hommage comme ça. Mais il fallait qu'il y ait quand même un peu du sourire.
Chanel, pouvez-vous nous dire ce que sera la mode cette année ?
Non.
Pourquoi ? Vous ne le savez pas ?
Parce que je ne le sais pas. Et puis que si je le savais, je ne vous le dirais pas.
Vous aviez une définition de l'élégance à me donner ?
Une définition de l'élégance ? Mon Dieu, c'est difficile, vous me posez des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Je vous dirai, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
Olivier Saillard, on entend Coco Chanel en 1959 dans 5 colonnes à la une. Vous aimez la cité. Le contraire du luxe, ce n'est pas la pauvreté, mais la vulgarité. Ça va très bien avec votre démarche.
Ah oui, oui, oui.
Vos parents étaient très soignés. Vous dites que, justement, vous les avez toujours vus prendre grand soin de leurs vêtements, comme beaucoup de gens des milieux populaires à
oui.
cette époque.
Oui, alors je pense qu'ils ne prenaient pas plus soin que les autres, mais ils avaient un soin attentif, comme tout un chacun à cette époque, en ayant une élégance par rapport aux objets qu'ils possédaient, c'est-à-dire que ça ne faisait pas pléthorique dans leur garde-robe, comme ça l'est devenu après, vraiment. Donc, non, jamais bien. Et j'ai toujours aimé ce soin-là que les gens modestes ont, une manière de boutonner la chemise un peu trop haut, de soigner le col, de faire attention, de ne pas s'interdire de vivre dedans, mais il y a une petite limite quand même qu'on peut mesurer. J'aime ça. Et la forme de discrétion aussi qu'il y a avec ça.
Et qu'est-ce que c'est l'élégance pour vous, c'est ça ? C'est la discrétion ?
Ah oui, sans doute. Je trouve qu'on est élégant que lorsqu'on est discret dans l'image et dans les propos. Je trouve que quelqu'un de trop voyant... Enfin, en même temps,
Pas de grande robe de bal, alors ?
Ah non, je trouve que... Puis en plus, je trouve que c'est très archaïque, cette idée d'une femme emprisonnée dans un sablier ou dans un corset. Si, je peux trouver qu'il y a eu des grandes périodes très belles. Aujourd'hui, non, je ne comprends pas ce que ça veut dire d'être en robe de bal, ni pour une actrice, ni pour une femme tout court. Je trouve que c'est c'est comme être en robe de mariée avec une crinoline. C'est une entreprise de déguisement qui m'apparaît très lointaine. Et je trouve que les quelques-unes, on le voit sur des montées de marche, quand elles sont en costume d'homme, en smoking, sont bien plus sexy.
Qu'y avait-il dans ce magazine Le Grand Couturier que vous faisiez à 12 ans?
Il y avait beaucoup d'espoir, je pense, parce que j'écrivais les articles, je dessinais les modèles, je faisais tout et je signais tout du nom Olivier. Donc il y avait des noms de familles différents, mais c'était toujours Olivier, précédé d'un Olivier, ça me rassurait. Non, il y avait beaucoup d'espoir de quitter la ville, de travailler dans la mode. C'était pas aussi clair que je le dis maintenant, mais oui, beaucoup d'espoir.
Vous aviez participé à un concours de mode organisé par Marie-Claire et vos dessins sont tombés dans une flaque d'eau. C'était tragique pour vous.
C'était tragique, c'était vraiment... Mais ma mère m'a donné une bonne leçon. J'avais 12 ans, donc j'étais très jeune et il y avait 3 croquis à faire, à envoyer pour Marie-Claire avec des échantillons de tissu. J'avais fait ça. Sans doute que c'était un style très naïf, mais j'étais très content et je me souviens que c'était la mode de cet été-là, de l'orange. Et au moment d'aller poster ça avec ma mère, paf, l'enveloppe tombe dans une flaque d'eau à Pontarlier, ça devait être encore un peu de neige. Et elle m'a vu, pas pleurer, mais sur le point de pleurer, elle m'a dit « Mais non, 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 tu as été capable de le faire, tu vas le refaire aussi vite, tu vas pas te décourager, on retourne à la maison, tu les refais, on les envoie. » Et c'est vrai, je l'ai refait et j'ai reçu un très très joli courrier de tous ceux de Marie-Claire. J'étais très jeune et ça m'a porté, ça m'a donné une petite colonne vertébrale.
On peut coudre ce qu'on veut dans la doublure d'un manteau. Quand j'étais petit, j'ai commencé à cacher des choses à l'intérieur de mes vêtements. Moi seul savais qu'elles étaient là. Des secrets.
Bonjour.
Vous voulez bien dîner avec moi?
Oui.
Magnifique film de P.T. Anderson, Phantom Thread 2018, pour la beauté et pour la symbolique. Olivier Sayer, je voudrais vous demander si les vêtements sont liés aux fantômes, s'ils sont hantés.
Uniquement. Il n'y a que ça qui est beau, c'est que c'est tellement... Le corps a tellement préempté le mouvement, le geste, la parole, l'odeur, c'est uniquement cela. Ce ne sont que des dépouilles, des fantômes. Même quand ils ne sont pas portés, on leur soupçonne de parler déjà du propriétaire qui les a choisis. Parce que c'est un vœu, un vêtement, c'est un vœu qu'il vous ira, qu'il vous plaît, qu'il vous habille. Et puis après, c'est un sédiment de soi. Soi-même, un portrait, parfois malheureux, parfois triste. Oui, moi, c'est tout ce qui m'a intéressé, non pas dans la mode, mais dans le vêtement.
D'ailleurs, vous notez la proximité entre le mot mode et le mot mort, et vous parlez de votre expérience à l'époque où vous aviez reçu des donations d'anciennes clientes de la couture qui se délaissaient de leur garde-robe avec beaucoup de mélancolie, oui. Ou des gens morts du sida.
Oui, oui, c'était très frappant. Au début, où j'ai commencé dans les musées de mode, milieu, fin des années 80. D'abord, c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de donations dans les musées de mode parce que finalement, les gens ne veulent pas tellement faire commerce de cette enveloppe corporelle. Donc, il y a encore beaucoup de donations. Et je voyais, en effet, beaucoup de clientes pour qui c'était le passé ou beaucoup d'enfants de clientes pour qui c'était le souvenir. C'était la période aussi où on commençait à recevoir des donations de personnes qui venaient de mourir du sida. C'est très troublant. C'était vraiment... Les musées de mode ne sont pas des musées de cette grande éphémère qu'est la mode. Ce sont des musées de l'homme disparu ou de la femme disparue. C'est autre chose. On n'a pas inventé le musée de mode que l'on a le droit d'espérer, que l'on peut s'inventer aujourd'hui. C'est le musée du vêtement, quel qu'il soit, est un musée de l'humain disparu, évanoui, peut-être flatteur, peut-être modeste, peut-être prétentieux, mais ça parle de tout ça. C'est très frappant dans les musées de mode, d'ailleurs, quand on fait venir des couturiers qui ont le vœu d'étudier tel détail de mode d'un vêtement des années 50 ou des années 60, on l'amène dans les réserves et très rapidement, il y a un malaise. C'est pas une belle ambiance, les réserves de musées de mode, parce que c'est des dépouilles environnantes, c'est inquiétant. Alors passer, oui, cette, gourmandise de découvrir une robe de Sarah Bernhardt, ou etc., ou quelqu'un de connu, ça devient vraiment un grand, grand cimetière. Moi, je m'y plais, mais je comprends qu'on puisse ne pas y voir justement ce qui est cette vœu de nouveauté que veut nous instruire la mode.
Ça peut aussi être consolateur, puisque je sais que, par exemple, moi, j'ai gardé de mes parents très très peu de choses, mais j'ai deux polos troués, un pull troué et des chaussettes de mon père que je porte. Est-ce que vous, Olivier Saillard, vous portez peut-être, je sais pas, un foulard qui appartenait à votre mère, quelque chose
J'ai des mouchoirs de ma mère, je porte encore certaines chemises de mon père, j'ai des chemises qu'un ami m'avait données de son ami qui est disparu et que je raccommode et que j'aime beaucoup.
C'est un hommage
Oui, je le vois, certains y verraient peut-être une forme morbide. Non, je suis très très heureux. Je me séparerai pour rien au monde de ces objets, alors que je vais me séparer plutôt rapidement d'une chose de mode un peu incertaine qui n'aura duré qu'un moment, mais celles qui ont appartenu à d'autres. Et puis je sais pas, je trouve qu'il y a une forme d'affection à le faire. Et je crois qu'on est tous pareils un peu là-dessus.
Il y a un défilé auquel vous aviez assisté assez macabre et baudelairien. C'était à la Biennale de Florence en 96. Jean-Paul Gaultier, et je vous dis le mot spécola pour le nom d'un musée, et écorché.
Ça m'avait beaucoup plu. C'était vraiment une Biennale de la mode 96-97 à Florence. Ça m'a plu d'être à Florence, ça m'a fait aimer la ville que j'avais déjà vue avant, mais ça m'a surtout instruit sur la manière dont on pouvait renouveler l'art d'exposer les vêtements. Jean-Paul Gaultier s'était servi des écorchés de ce musée, qui est vraiment d'une poésie folle, mais qui peut effrayer. Ce sont des écorchés, des cires, des...
Oui.
Et il avait étendu des vêtements avec des fleurs séchées. À le raconter comme ça, ça paraît rien, mais c'était une forme très, oui, baudelairienne, abandonnée. C'était le souvenir, ce qu'on expose dans la mode est un sujet qui n'est pas exposable. Cette disparition de l'être humain, on le voit bien, les visiteurs, lorsqu'ils visitent des expositions, il y a une chose très statique et très morbide à la fois. Une cabine d'essayage a plus d'aspect performatif pour le visiteur, si on devait.
Et c'est drôle que vous disiez ça, puisque votre première performance était d'un défilé sans vêtements.
Oui, c'est vrai. C'était une forme... C'était pour... Moi, j'ai voulu m'inventer une discipline qui pouvait me mettre en relation entre la mode et les musées. Parce que je trouvais que les musées, c'était une forme, une boîte postale, une poste restante qui n'était pas suffisante. On n'a pas inventé des musées de danse qui ne seraient faits qu'à partir que des costumes de danse et pas des danseurs. La mode... C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a une inscription artistique des créateurs dans le vêtement, mais il y a tout ce qui est le corps vivant qui est abandonné. Donc je voulais un peu interroger ce segment-là, et surtout interroger cette disparition. Je pense qu'elle m'était presque plus importante que de resignifier la présence du corps. Mais interroger l'un veut dire l'autre, et donc tout à coup c'est devenu très vivant parfois.
Parce qu'il y avait une mannequin qui lisait le texte, oui, d'une collection imaginaire.
Oui.
Et vous avez inventé la robe seule du soir, une robe à lire.
Oui.
Qu'est-ce que c'est qu'une robe à lire ?
C'est une robe à écouter. Au début du XXe siècle, dans la presse de mode, il y avait très peu de photographies, très peu de dessins. Donc la cliente ou la passionnée devait se faire une idée de la robe à partir des descriptions, des couleurs, des broderies. C'est devenu un exercice, même à la fin du 19e, fabuleux sous Mallarmé. Mais comment se faire une idée de la robe en fermant les yeux? C'est assez impossible et c'est assez performatif. Donc on avait fait une collection, et j'étais le premier surpris que toutes les journalistes de mode qui étaient là me disent « Oh, que ça fait du bien de faire un défilé sans vêtements. »
Dont Suzy Menkès de l'International Herald Tribune.
Je lui dois, vraiment. Le premier article a été très audacieux, elle est venue, elles sont très solidaires, vraiment.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Olivier Saillard, parmi vos performances, il y a les robes de mariée finissent toujours célibataires. Vous avez une passion pour les robes de mariée, vous en achetez sur eBay et parfois vous entretenez des correspondances avec leurs propriétaires.
Oui, qui sont souvent avortés, si je puis dire.
Les correspondances.
Les correspondances. L'achat, non. Mais c'est quelque chose qui est venu justement après les vêtements de ma mère. J'avais envie de prolonger ce travail sur ce qui n'est pas pris en charge par la mode. La mode ne veut faire du passé qu'un motif, ou un motif de jean délavé, mais c'est du neuf quand même. Mais tout ce passé, tout ce que vous disiez des vêtements de votre père que vous mettiez, personne ne veut le prendre en charge. D'abord, ça ne développe pas une économie. Mais moi, c'était précisément cette non-économie que je voulais voir. On a commencé avec les vêtements de ma mère, puis ses robes de mariée. J'étais surpris de voir qu'il y avait sur eBay des robes de mariée à 19 euros, par exemple. Et je me disais que ça donnait pas l'idée que le bonheur avait été clinquant. Et en effet, quand j'ai commencé à acheter ces robes de mariée, qui en plus n'étaient pas dans un très bon état, donc très vite on s'est dit on va pas les restaurer, on va les transformer, mais on va laisser ces traces d'usure, ces traces de blessures d'un col, ces traces de salissures qui en creux ou en bosse donnaient une idée un peu du couple ou une idée de la femme un peu abîmé. Et aujourd'hui, vraiment, on ne parle que de ça. Et en plus, j'ai voulu vraiment bavarder avec les personnes qui me vendaient les robes. Elles n'en étaient pas toutes les propriétaires, mais celles qui l'étaient avaient envie vraiment de classer l'affaire au plus vite. Donc c'est où j'achète, oui, c'était mon mariage, pas réussi, pas heureux, mais faites-en ce que vous voulez, bon vent. Ce qui m'a été très, comment dire, c'était une surprise. J'ai voulu acheter après des costumes d'hommes mariés. Et il n'y en a pas référencé. Sur eBay, sur les sites de vente, il n'y a pas de costume d'homme marié référencé comme tel. Sans doute.
Je pense au personnage des Grandes Espérances de Charles Dickens, Miss Havisham, mais je ne sais pas si vous l'avez lu, ce qu'elle reste toute sa vie dans sa robe de mariée. Bon, je n'en dis pas plus, c'est un chef-d'œuvre. Tout de suite, une bande-annonce.
J'ai une lettre pour vous de la part de votre futur mari.
Oui, au mariage, sans le découvrir avant de le voir physiquement, c'est ça ?
Marié au premier regard, nouvelle saison, dès le lundi 3 mars sur M6.
Des fois.
Alors Olivier Saillard, il paraît que vous ne loupez jamais Marié au premier regard.
Je loupe parfois, mais j'aime bien en effet me retrouver devant. C'est une forme d'addiction très très malsaine. J'y crois pas, mais ça me... Oui, je suis interloqué.
Qu'est-ce qui vous fascine dans le mariage ? Êtes-vous marié vous-même ?
Je le suis, mais ce n'était pas un vœu au départ. J'avais dit, on se marie avec mon ami pour le passé, pas pour l'avenir.
Comment ça, pour le passé ?
Parce que ça faisait longtemps qu'on était ensemble.
Pour célébrer le passé.
Pour célébrer le passé. Et puis c'était l'année où, grâce à M. Hollande, le président, on avait le droit de se marier entre garçons, entre personnes du même sexe. Donc je dis, alors on le fait. Et ça m'a beaucoup rassuré, plus que je pensais. Mais j'avais toujours eu peur. J'avais vu tellement de couples vivre longtemps ensemble et se marier, divorcer l'année d'après, que je pensais qu'il y avait une malédiction. Ça n'a pas été le cas, en tout cas, j'espère pas pour tout de suite.
Non, je vous le souhaite. Il y a un paradoxe dans la mode, c'est qu'on nous présente des choses, ça fascine la plupart d'entre nous, et on nous présente des choses que la majorité d'entre nous n'auront jamais les moyens d'acheter. On s'habille tous les jours avec des tissus qui nous recouvrent, qui nous exposent, qui nous cachent, donc c'est ce qu'il y a de plus intime. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait l'air frivole, mais je rappelle toujours que la façon qu'on a de s'habiller, c'est la façon qu'on a de se présenter au monde et aux autres, donc c'est beaucoup moins frivole que ce qu'on pourrait penser. Et en fait, on peut être élégant avec très peu de moyens.
Moi, je le crois. Je crois que quand on regarde aujourd'hui, il y a en effet la mode, c'est-à-dire comme si on appelait l'art contemporain, comme si c'est une dimension, un territoire. On sait très bien qu'on ne va pas être comme ça. D'ailleurs, ça nous mettrait dans des positions plutôt délicates pour vivre au quotidien.
Et surtout dans le métro.
Surtout dans le métro et même pour travailler. Vous voyez, en ce moment, je trouve que toutes les femmes, elles ont plutôt beaucoup de chemises. Vous avez une chemise d'homme et je trouve ça toujours très beau. Les femmes sont plus en pantalon qu'en robe. On comprend pourquoi. Elles sont à nouveau des chaussures à plat plutôt qu'à talons. Je trouve que cela évoque une féminité qui était moins archétypée sur des talons aiguilles et des tubes de rouge à lèvres. Et ça, c'est un état de la mode. Parce que qu'est-ce que c'est la mode ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt ça ? Tout ce vêtement ordinaire que l'on partage ensemble avec une vie plus ou moins en commun qui est la même, au lieu d'être cette mode de création sur des podiums ? Je pense que vraiment il y a deux territoires qui s'opposent un peu. Je me souviens d'une interview par une journaliste qui me disait si vous deviez expliquer à un ovni qui arrive sur Terre la mode à partir de ce que vous possédez au musée, j'aurais pu le faire, mais qu'avec des pièces d'exception, que ça soit des robes, des habits à la française de cour ou des habits de salon de couture, il n'y avait pas un jean ni un t-shirt de footballeur. Or aujourd'hui, toute la rue met des t-shirts de footballeurs. Donc, et c'est par ailleurs ce qu'on a voulu investir à Moda Povera pour étendre cette réflexion sur l'histoire de la mode à tous ces méprisés, ces raccommodés, ces délaissés de l'histoire de la mode que nous portons bien plus que le reste.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Ilia Veta Portofino. Envie cloche qui sonnuait. De ne sonner que les matines. Quand Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine. On l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte et le petit chalet de bois dont il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. À chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut, il chante notre mariage vers les nuages à Portofino.
C'est le standard de ce soir et c'est aussi votre choix musical, Olivier Saillard, Dalida, Love in Portofino.
Oui, c'est vrai. Et j'avais reçu par son frère Orlando la donation de toute sa garde-robe, mais vraiment de tout. Il avait gardé avec un soin méticuleux, sacré, ritualisé, tout de Dalida, et j'avais fait la promesse à Bertrand Delanoë que nous nous occuperions, moi personnellement, de la garde-robe de Dalida. Alors évidemment que ça m'a mis pas en joie, en... Oui, ça traitait de tous ces sujets-là, à nouveau.
Mais vous qui aimez la sobriété, là, il y avait des robes extraordinaires, pailletées.
Ah ben oui, mais il y a des fois, on a besoin d'un bon dessert aussi,
ah,
avec une crème chantilly quand même.
Vous me rassurez
vraiment,
un peu.
J'aime bien, ou d'un bon verre de vin, et ça, ça jouait bien le rôle, vraiment.
Il paraît que je suis un pilier de Paris 14e, parce que je me suis installée ici, rue Daguerre, je crois en 51 ou 52, ça doit faire quand même 60 ans ou plus, et j'ai aimé ce quartier et je l'ai filmé. Donc, j'ai filmé évidemment un film rue Daguerre qui s'appelle Daguerreotype, mais toutes les autres 5 à 7 se passent rue de l'Ambre, tout près d'ici, au Dôme, boulevard Raspail. Il se trouve qu'il y avait sur un espace très réduit de quoi vivre. Une boulangerie, une boucherie, un coiffeur, une quincaillerie, un tailleur, et un réparateur d'horloge. Et une épicerie. Donc, il y avait absolument tout ce qui est nécessaire pour vivre et manger. Et ça me plaisait beaucoup de ne pas aller plus loin.
C'est Agnès Varda qu'on entend en 2012. Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs, Olivier Saillard, et vous avez choisi l'exposition Les Paris d'Agnès Varda au musée Carnavalet.
Tout à fait. Je trouve que c'est très tendre. C'est quelque chose de très, oui, poétique, une forme de poésie avec des bouts de ficelle. Et puis, j'ai tellement adoré Cléo de 5 à 7 comme film que c'est peut-être un des films que j'ai vu le plus dans ma vie.
Et pourtant, il est tragique.
Oui, oui, mais j'aime ça.
Vous aimez la tragédie? Ah oui, oui. Moi, j'ai fait Remède à la mélancolie pendant 10 ans, alors je ne vous suis pas sur ce coup-là.
Non, oui, j'aime ça, je préfère ça. Mon appétence va plus vers les choses qui se terminent mal.
La première scène de ce film est très belle, elle se passe chez une cartomancienne.
Oh, magnifique.
Elle lui tire les cartes.
Magnifique.
Vous aimez les tarots?
Je l'ai déjà fait, mais ça ne m'intéresse pas de ne pas être propriétaire de ma vie. Et ça m'influe trop après. Après, je suis trop à y penser. Je peux interpréter même un regard de la voyante comme une forme de non-dit qu'elle ne m'aurait pas avoué, me voir mort. Donc non, pas mon truc. J'aime bien fabriquer mes rêves, ma vie, mon espoir. Ça ne me séduit pas, le reste.
Alors, pour revenir au musée, pour vous, le plus beau musée du monde, c'est celui de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous êtes
triste ? J'ai dû changer.
Ah.
Oui, il est beau, bien sûr. J'aimais bien la confrontation d'œuvres de Malevitch avec des rideaux plissés très kitsch. Je trouvais que c'était une autre forme d'exposition. Mais depuis, non, il y en a beaucoup d'autres. Il y a un musée que j'aime beaucoup, le Museo San Marco à Florence, qui est vraiment magnifique.
Oui, c'est magnifique. Vous avez présenté l'exposition L'Homme-Objet sur l'histoire de la garde-robe masculine des années 40 à aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez la mode féminine plus intéressante que masculine ou égale? Ou alors, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut jouer avec les genres et puis c'est pas si important que ça finalement?
Non, je dois te dire, j'ai bien terminé de rédiger à nouveau un ouvrage sur l'histoire de la mode au 18e, 19e et 20e siècle, et qu'on peut se dire entre nous que la mode masculine répondait à une forme de confort, de praticité plus élevée et plus universelle, plus moderne. Je n'aime pas utiliser ce mot qu'on utilise trop dans la mode moderne, mais en effet, le vêtement masculin répond à un vœu de modernité bien plus réalisé. La femme, on l'a mise dans des corsets, puis dans des gaines, puis dans des robes à paniers. C'est toujours des cages de luxe. Et aujourd'hui, la chirurgie esthétique qui s'adresse autant aux hommes est une forme de prison. Donc non, je crois vraiment, quand on regarde le quotidien, que le vêtement, on dirait, de l'homme, ça ne veut pas dire de la virilité, de l'espèce humaine telle qu'il est, une chemise d'homme, un pantalon, est plus adéquat, il est moins enfermant. Et je ne suis pas persuadé de l'usage qu'on fait d'une trop grande féminité. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que être femme, c'est parler comme une petite fille, mettre du rouge à lèvres, des talons hauts? Je ne crois pas.
Ça peut être très beau tout de même.
Ça peut être très beau, puis d'ailleurs je dis je crois pas, j'ai pas autorité à dire ce que c'est qu'une femme ou pas, mais vous savez j'ai eu beaucoup de sœurs, 4 sœurs, et j'avais l'impression qu'on pensait de la même manière, donc ça m'a, ma langue a fourché, mais ça peut être très beau, mais je pense que c'était surtout une prison, vraiment, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez l'homme, mais je crois qu'on pourrait m'attaquer là-dessus.
Oui, on pourrait en parler pendant des heures, puis il y a des hommes qui mettent du rouge à lèvres.
Oui.
Mais d'ailleurs, ça date, d'ailleurs, on en mettait déjà à la cour du roi.
Oui, oui. Donc
Alors, je ne vais pas parler de modernité, je vais aller encore plus loin, je vais parler d'atemporalité.
On ne regarde pas le passé, on regarde un avenir. Un avenir, c'est la nouveauté, c'est le nouveau. C'est pas ce qui est fait, donc c'est ce qu'on va faire. Et c'est là où on trouve aussi une satisfaction, et une espèce d'égoïsme aussi. Dans ce travail, on le fait bon pour les personnes qui vont porter les robes, hein, mais on le fait aussi pour soi, pour le plaisir de faire quelque chose qu'on espère agréable et joli.
C'est Madame Gray sur France 2 en 1980. Olivier Saillard, vous lui avez consacré exposition et ouvrage, un ouvrage paru l'année dernière aux éditions Rizzoli. Faites-la nous connaître, enfin assez brièvement, mais faites-la nous connaître tout de même.
Madame Gray, c'est un personnage très particulier dans l'histoire de la mode. Elle commence dans les années 30 et elle ferme dans les années 80, un peu avec fracas. Et c'est plusieurs décennies, c'est presque une histoire du 20e siècle. C'est une leçon, c'est une contre-leçon de mode, puisqu'elle a fait, on va dire, à peu près toujours la même chose, de manière toujours différente. Mais on pourrait dire de Madame Gray, comme d'un auteur, un écrivain, qu'il fait le même livre, on sait reconnaître son écriture. Et ça m'avait beaucoup intéressé parce que je crois que c'est l'inverse. En tout cas, la trajectoire de ces grands auteurs de mode, j'aime bien les appeler comme ça, c'est de se répéter. Il est beaucoup plus difficile de se répéter en mode que de changer d'idée tous les jours parce que c'est facile finalement. Enfin, facile. Il faut du travail, c'est vrai. Mais se répéter, c'est aussi être vent debout contre les modes, contre les engouements passagers. Et Madame Gray, en plus, avait un travail proche de la sculpture et du drapé.
Passager, ça revient souvent chez vous. Vous vous érigez contre cela. Vous êtes directeur artistique de la maison Weston. Emportez-vous et méritent-elles leur réputation? Alors, on est sur une chaîne de service public. On ne peut pas faire de publicité. Bon, la plupart d'entre nous n'ont absolument pas les moyens d'avoir des Weston, mais c'est confortable.
C'est pas toujours confortable, mais ça fait se tenir droit. Mais il faut savoir bien les choisir. Le charme de chez Weston, si je peux en parler, c'est qu'il y a des pointures et qu'il y a des largeurs différentes. C'est la seule maison. Ah. Donc il faut trouver la bonne largeur, mais évidemment, ça peut l'être très confortablement. On peut les oublier.
Ah, waouh. J'ai appris en lisant certaines de vos interviews, Olivier Saillard, qu'un défilé chez Dior dans les années 50, ça durait 2h30. Courage l'a réduit à 40 minutes à la fin des années 60. Aujourd'hui, ça ne dépasse jamais 11 minutes, à part chez Chanel Haute Couture.
Oui, c'est quelque chose qui est devenu très peau de chagrin, qui répond à une logique de médiatisation. Et je pense que peut-être ça peut rechanger à nouveau. Haute Couture, c'est un petit peu plus grand. Mais en effet, c'est un épisode pour montrer son travail que je trouve presque proche du saccage. Quel que soit le créateur que l'on aime, etc., je pense que ça devrait demander plus de temps. Un créateur de mode que j'ai beaucoup aimé, à part Madame Gray, c'est Issey Miyake, qui prenait aussi une valeur de l'exposition dès les années 70, parce que c'était un temps de regard différent. Je trouve qu'il faut revenir un peu ça. Et que ce temps qui s'est réduit, c'est aussi concordant avec la grande consommation que l'on a. Ça va aussi vite que de regarder le défilé sur l'écran.
Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas écrit?
J'aurais végété.
Pourquoi écrivez-vous?
Pourquoi j'écris? Moi, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire. Mais Simone de Beauvoir n'est pas d'accord. J'ai toujours dit que c'était Maurice Sachs qui m'avait fait écrire pendant la guerre et que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais jamais écrit. Je crois que ma vocation est nulle et qu'au fond, j'obéis aux autres, mais pas à moi-même.
Pour qui écrivez-vous?
Pour qui j'écris? Pour un témoin invisible, un lecteur invisible. Je pense que c'est le lecteur à naître qui est dans mon dos. J'exagère peut-être un peu, mais il y a de ça. J'ai son haleine sur ma nuque. Je pense qu'également, dans ce cas-là, c'est parce qu'on écrit pour quelqu'un qu'on aime. On n'écrit pas pour 50 000 personnes à la fois, pour 20 000 personnes à la fois. Ça, je n'y crois pas quand on dit on écrit pour son public. Ce n'est pas vrai. On écrit pour quelqu'un, et puis au fond, on écrit également sur cette page blanche qui est un être cher, quoi, qui est un être très proche de vous. Ce n'est pas un amant, mais enfin, c'est presque un amant abstrait, une page blanche, puisque c'est un combat avec elle, c'est de l'amour avec elle, c'est de la haine avec elle, ce sont des difficultés prodigieuses avec elle.
C'est l'écrivaine Violette Le Duc qu'on entend en 1970. Je crois que vous l'affectionnez, Olivier Saillard.
Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai découvert l'écriture de Violette Le Duc, c'était pour moi comme une genêt au féminin.
Quel compliment.
Et j'ai vraiment aimé. C'est presque de... Je la situe entre une expression d'art brut, une dentelle qu'on peut faire avec les mots. J'ai à peu près tout lu. Maintenant, je ne sais plus très bien associer quelle histoire à quel livre, parce qu'il y a... C'est une œuvre vraiment...
Un titre à lire.
L'asphyxie.
L'asphyxie, évidemment. Merci beaucoup, Olivier Saillard.
Merci.
Votre performance Moda Povera 5, Les vêtements de René, sera visible au Grand Palais du 10 au 13 juillet prochain. Le catalogue de l'exposition que vous avez imaginé avec Gaëlle Mamine, Les fleurs d'Yves Saint-Laurent, est paru chez Flammarion sous la direction d'Elsa Jensen et Alexis Sornin. L'exposition Azzedine Alaïa, la collection 2003, ouvrira ses portes à la Fondation Alaïa en septembre 2025. Votre histoire de la mode du 18e siècle au 20e paraîtra en octobre prochain aux éditions Les Singuliers Bouquins. Et enfin, nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais vous participerez à une exposition curatée par Tilda Swinton au Heim Museum d'Amsterdam fin septembre. Vous avez souvent collaboré avec elle et elle a imaginé des œuvres avec des artistes et amis pour l'occasion. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Betty Algret et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Julien Dumont.